Le tempo che si lo guarda non pure la significativa.
Comme je l'ai tantôt, mon nom c'est Monsieur Adjima Minala, je suis ingénieur polytechnicien à Boulogne. En guise d'introduction, comme le modérateur a assez bien dit au départ, je vais faire un geste pratique. Cette matinée, je pense que vous avez eu à planter les arbres, éviter de voir certaines espèces. Tout le monde connaît la problématique actuelle en ce qui concerne le reboisement. Nous savons que le reboisement fait partie du centre du débat actuel en ce qui concerne les solutions pour la protection contre le changement climatique, également la préservation de la biodiversité. Bon, qu'est-ce que le reboisement? Qu'est-ce que c'est? J'ai eu à vous présenter, comme vous pouvez le voir, une définition un peu généraliste du reboisement. Bon, le reboisement est une opération qui consiste à planter des arbres. Donc, l'action que vous avez eu à réaliser ce matin, vous avez eu à réaliser cette action au niveau unitaire. Parce que le reboisement, c'est l'action de planter des arbres. Et vous avez juste planté des arbres. Bon, tout le monde connaît les grandes parties de l'arbre. On va revenir sur ça. Nous avons le tronc, les feuilles et les racines. Bon, ces différentes parties-là ont un rôle très important en ce qui concerne la sécurité alimentaire et la gestion de l'eau. Pour essayer de vous permettre d'apprécier leur rôle et leurs différents avantages, donc on va procéder ici-là de manière. On va prendre le cas d'un arbre, je vais dire comme ça, d'un arbre où chacun peut apprécier le rôle d'un arbre. Parce que quand on a un arbre, on peut apprécier le rôle de plusieurs arbres s'ils sont combinés et qu'ils font un effort en synergie. Pour empêcher l'impact de manière locale, régionale, mondiale, c'est tout pareil ainsi. Bon, il est. Donc, comme je disais tantôt, si on met les arbres en association, ça va vraiment avoir un impact. Excusez-moi, c'est possible de.
Bien sûr. Oui.
Ok, merci. Bon, en ce qui concerne le lien entre le reboisement et la sécurité alimentaire. Bon, la question qu'on veut se poser ici, là, c'est de savoir comment le reboisement contribue à la sécurité alimentaire. Bon, pour apporter une solution à cela, on s'est d'abord posé la question, qu'est-ce que la sécurité alimentaire? Bon, selon la définition donnée lors du sommet mondial de l'alimentation en 1996, la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont en tout moment un accès physique et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Donc, en quelque sorte, si on parle simplement, la sécurité alimentaire, cela, c'est la nourriture présente dans un espace suffisant pour chaque être vivant présent dans cet espace. Donc, la sécurité alimentaire ici est plus spatiale, et dimension spatiale à cela. Bon, quand on parle de sécurité alimentaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mange ce que je veux. Je mange ce que je veux et c'est accessible. On a parlé de l'accessibilité physique et économique. Ça veut dire que ça a porté de main et les revenus que j'ai me permet de manger ce que je veux à ma guise. Il y a des images qu'on peut le constater. Je peux manger le lapin, si je décide de manger le lapin, je mange le lapin. Si je décide de manger telle espèce, je mange. Si je décide de préparer le gombo, je prépare le maïs. Bon, ça a la guise de chaque individu, je peux dire ainsi. Bon, en ce qui concerne le lien, parce que je disais tantôt, si on parle de nourriture, là, quelles sont les activités qui permettent de donner à l'homme la nourriture? On parle de, là, de quoi? De l'agriculture, de l'élevage, la pisciculture et toutes les autres activités connexes. Donc ça veut dire que là, on essaie maintenant de visualiser. Si on prend un arbre, on le met dans un milieu précis, un milieu où on va pratiquer ces différentes activités. Quel est le rôle que l'arbre là va avoir pour permettre, pour faire en sorte que cette nourriture que nous cherchons, cette sécurité alimentaire que nous cherchons, comment l'arbre là va permettre d'atteindre cette sécurité alimentaire? Ça, c'est l'échelle d'un arbre dans un milieu. On peut prendre le milieu, soit la culture, soit dans un champ, soit dans une zone où on pratique, soit en bordure d'une rive. On passe, ça dépend du scénario que chacun a pu essayer de. Bon, ici là, on a eu à proposer à vous lister quelques
quelques rôles. Bon, il faut savoir ici, comme je disais tantôt, l'arbre a plusieurs parties que chacun de nous connaît. Finalement, le feuillage. Le feuillage assimile et stocke le carbone avec les principes de photosynthèse, bien sûr. Il fait aussi office de brise vent et de protection des cultures et des animaux. Notamment parce que si quelqu'un a les arbres de sa concession ou de son champ, ça protège son champ, ça évite contre les vents et ça évite contre les invasions de certaines espèces, ça protège aussi les animaux. Et ça fait en sorte que son alimentation, donc sa nourriture, puisse être en sécurité. Donc il y a aussi l'aspect la chute des feuilles. La chute des feuilles participe à la protection du sol et restitue la matière organique. Vous prenez le principe par lequel, notamment avec la séquestration du carbone, la matière organique contenue dans le petit quoi. La matière en fait, qui est la feuille, quand elle tombe là, ça elle va se décaler, elle va constituer la matière organique, la matière et tout ce qui va avec, qui va enrichir le sol et constituer le muscle à la longue. Bon, ça c'est aussi un autre rapport parce que si l'arbre est présent dans un milieu, ça sous-entend que c'est ce milieu-là sera riche en matière organique. Et la matière organique est nécessaire pour la croissance de certaines plantes, la croissance, le bon développement de certaines plantes. Donc, ça c'est un autre rôle de l'arbre. Bon, nous avons aussi le rôle au niveau des racines. Ça apporte les matières organiques et les minéraux. Elles retiennent aussi l'eau dans le sol. Bon, on va revenir sur ce rôle aussi. Bon, on peut aussi le racinement des arbres, améliorer la structure du sol et favoriser un meilleur enracinement des plantes cultivées. Il participe aussi à la lutte contre l'érosion. Là, on parle des dégâts de l'érosion. L'érosion dans un sol entraîne des matières organiques, dégrade le sol. Et la présence d'un arbre permet de consolider le sol et ça évite que ces différentes particules qui sont riches pour la croissance de nos cultures s'embonnent. C'est peut-être ainsi. S'embonnent sur l'effet de l'érosion, sur les conditions des agents de l'érosion, le vent, l'eau et bien d'eau. Il y a aussi l'action anthropique de l'érosion. Bon, on parle aussi de l'ombrage. Il rafraîchit et apporte les arbres à participer de ça. Apporte par les arbres, participe au bien-être des animaux, autant pour moi. Donc ici, on parle de l'ombrage, en fait. Parce que la présence d'un arbre apporte une certaine fraîcheur, un certain microclimat, si on parle dans un langage un peu plus technique, microclimat. Microclimat, ça s'entend ici que quand nous savons que dans nos zones où il y a l'arbre, la fraîcheur y est. Compte tenu du changement climatique, cette fraîcheur-là fait en sorte qu'il fait bon vivre. Pour l'homme comme pour la plante comme pour les animaux. Les animaux sont moins stressés, davantage d'une certaine fraîcheur. Les animaux sont moins stressés, ils peuvent facilement faire la reproduction. Si on parle dans le cadre de l'élevage, la reproduction, la croissance de leur poussin, il y a un certain bon nombre de paramètres qui partent avec cette fraîcheur qu'apportent les arbres. Bon, il y a aussi au niveau du refuge biologique. Donc les arbres, c'est un refuge écologique, une niche écologique, c'est petit comme ça, une micro-niche. Parce que dans les arbres, de nombreuses espèces, notamment les champignons, ça abrite parfois les oiseaux, parfois les écureuils. Bon nombre d'espèces qui font aussi que, sur le plan de la sécurité alimentaire, un homme peut décider de manger des écureuils parce qu'il y a l'arbre par une écureuil, par exemple. Donc c'est juste citer les différents avantages de l'arbre sur le plan de la sécurité alimentaire. Bon, nous allons ici parler du reboisement et la gestion de l'eau. Là, on évolue toujours à l'humidité d'un arbre, en fait. Bon, qu'est-ce que la gestion de l'eau? Bon, quand on définit la gestion de l'eau comme étant la gestion de l'eau, est une activité qui consiste à planifier, développer, distribuer et gérer l'utilisation optimale des ressources en eau. Donc, on parle de gestion optimale. Bon, là, on peut le voir au niveau de la diapositive, j'ai parlé du bilan de l'eau. Donc, on ne parle pas du bilan évolué. Et on parle aussi de l'aspect du cycle d'eau. Donc, on se rend compte que la plante intervient dans le cycle d'eau. La plante intervient dans le cycle d'eau. Comment la plante intervient dans le cycle d'eau? Bon, ça, c'est un cas spécifique d'un arbre qu'on a eu à planter dans une zone précise, dans un espace bien défini. Bon, comme vous pouvez le constater, il y a des précipitations. Lorsque l'eau précipite, il y a une partie qui est retenue par la surface foliaire. Cette partie-là sera utilisée également. Et par l'évapotranspiration, elle sera encore réinjectée dans la nature. L'eau, il y a une seconde partie maintenant qui va tomber au niveau du sol. Par le phénomène d'écoulement, l'eau qui va rejoindre les cours d'eau. Et il y a une autre partie. Compte tenu ici là de la nature, de l'arbre, parce que l'arbre n'est pas la présence, par sa présence, elle aère le sol. L'aération du sol permet ici là de faciliter l'infiltration et la recharge des nappes de la nappe phréatique. C'est le dire ici. Bon, vous connaissez, il y a les zones où il n'y a pas d'arbre, supposons un sol assez imperméable. très dur. Et si le sol est dur, ça risque de chambouler ou de bouleverser ici là l'équilibre. L'équilibre évolue, on peut dire comme ça, au niveau du bilan évolue en fait. Bon, on va évoluer. Bon, il y a déjà dit tantôt le rôle au niveau du cycle de l'eau. Bon, il y a aussi un autre rôle très capital de l'arbre sur le plan de la gestion de l'eau. L'arbre agit comme si on parlait là de phytoépuration. Parce que la présence d'un arbre dans un milieu permet de purifier cette eau-là. Parce que nous savons que l'arbre, de par ses racines, puise l'eau dans le sol. Quand il puise l'eau dans le sol, à travers ces différentes petites métabolismes, des choses comme ça, ça essaie de prélever, non. Et après, quand ça peut s'étudier une certaine partie, d'autres parties, ça met à disposition des autres plantes. Et par les différentes conditions, on évite d'entrer dans les détails un peu plus techniques. On se limite peut-être à une certaine appréciation un peu comme ça. Bon, là, j'ai eu à illustrer cette image-là. La présence des arbres au niveau des berges, ça permet de fixer, ça fait en sorte que ça lutte contre l'érosion. Dans la zone de l'extrême nord, par exemple, l'érosion des berges, Mayo, Tanaga, tout ça. Si les arbres sont présents dans cette zone, ça va limiter, par exemple, l'érosion. Là, les rôles sont déjà dit. Bon, il y a d'autres bénéfices écosystémiques, écologiques, en fait, du reboisement de la présence de l'arbre. Là, on parle de séquestration du carbone, production d'oxygène et bien d'autres. En ce qui concerne quelques exemples de projets, parce qu'il faut savoir ici que la communauté internationale s'est rendue compte des bienfaits du reboisement. Donc, c'est bien de mettre un arbre, de planter un arbre. Et ils ont mis en place de nombreux projets, ce qui montre ici la pertinence du reboisement de l'arbre que vous avez eu à poser ce matin. Dans le monde, il y a beaucoup de projets au Kenya, il y a les projets de reboisement en Inde. Si on parle particulièrement du Cameroun, concernant le projet Sahel-Vert, par exemple, il y a le projet UF Forest. Bon, il y a aussi beaucoup de documents qui montrent aussi l'engagement du gouvernement camerounais à travailler, à faire des travaux allant dans ce sens. Par exemple, le document sur la restauration des paysages forestiers et nous aussi le programme national de reboisement. Bon, c'est pour réaliser cette activité de reboisement, il y a beaucoup de défis. Beaucoup de défis que vous êtes conscients de ces défis-là. Le premier défi ici-là, on parle de manque de financement, de manque de ressources. Parce que pour faire cet acte de reboisement-là, parfois il n'y a pas assez de moyens pour trouver les plans, pour faire les cohésions et tout ce qui va avec le transport, la logistique. Donc parfois c'est un peu difficile. Parfois même l'espace dans lequel tu vas vous planter là, parfois il y a des conflits. Donc je vais un peu évoquer cette anecdote. Je pense que c'était la journée mondiale, le Saint-Jean, à l'extrême nord. J'étais dans la région là, on a eu à faire un acte de reboisement. Là, comme le chef dans le Diao, ils sont venus nous chasser alors qu'on plantait les arbres dans leur espace. Donc il y a cette réalité conflictuelle là qu'il faut se prendre compte dans la période. Il y a aussi la déforestation illégale, il y a aussi les pressions démographiques. Parce que généralement même, c'est dû aux pressions démographiques qui font en sorte que quand la ressource, il y a la population, les ressources se retrouvent en train d'être pressées. Et les gens se retrouvent en train de surexploiter certaines ressources au profit de quoi de l'argent. Ça crée un déséquilibre alors. Il y a aussi le problème du changement climatique, parce qu'il y a aussi les contraintes. C'est une contrainte technique. Tantôt, parce que vous avez évoqué cela, j'espère que vous avez eu à planter à. Vous avez pas planté là-bas en fait. Donc, cette espèce-là doit être adaptée à la zone. Si on veut l'adaptabilité, et il y a certains paramètres techniques qu'il faut prendre en compte avant de choisir une espèce à implanter dans une zone. Bon, comme recommandation, si on peut utiliser une collaboration entre le gouvernement, les ONG, la communauté, le CAP. Donc, nous devons travailler en synergie, les OSC et le gouvernement, pour que l'impact soit davantage plus important. Il y a aussi une éducation et une sensibilisation des populations. Parce que les populations ne sont pas conscientes du problème qui se retrouvent ici en train de découvrir, soit banaliser l'acte, soit ne pas encourager. Bon, des actes un peu qui altèrent cette activité que vous faites en fait. Bon, il y a aussi le document des techniques de reboisement adapté au climat et à l'environnement local. Comme j'ai parlé tantôt, il y a les paramètres hydrophiques, les paramètres climatiques, il y a les paramètres même propres à chaque incrusté à chaque arbre. Il faut prendre en compte que lorsque on fait un acte de reboisement, que ça soit même. Parce que quand on plante des arbres, ce n'est pas la même façon. Quand on plante dans la zone extrême nord, Parce que tu plantes mal là-bas, tu ne prends pas encore, tu prends, tu veux, ici là, le sol est un peu plus favorable. Et il fait en sorte qu'il y ait aussi un peu plus âgé. Quand là-bas, quand tu vas planter, si tu plantes dans le sable et que tu n'as pas mis peut-être une partie d'argile là, qu'est-ce qui va retenir l'eau? Rien ne retient l'eau. La plante va rester comme ça, là que tu verses, ça s'infiltre, la plante, ça sèche. Donc il y a des petites techniques d'avoir au préalable, soi-même d'avoir un peu d'argile. Donc il y a quelques petites techniques, quelques petites pratiques qu'il faut éduquer les gens sur ça, sur le rôle de l'arbre en fait. Donc je crois que j'en ai terminé. En guise de conclusion, nous pouvons dire ici que le reboisement est un outil important pour assurer la sécurité alimentaire et la gestion durable de l'eau. Il est essentiel de promouvoir des pratiques de reboisement durable et efficaces pour assurer un avenir durable pour les générations futures. En investissant dans le reboisement, nous protégeons l'avenir et nos ressources naturelles et assurons un développement durable. Merci pour votre attention.